Bienvenue dans La Grande Réorientation, une chronique du géopolitique menée avec brio par Lamia. 5 minutes de décryptage pour comprendre sans détour la géopolitique du Grand Moyen-Orient.
Lamia, on te retrouve comme pour chaque semaine pour ta chronique La Grande Réorientation. Et cette semaine, on va s'intéresser à Erdogan et la religion. Donc comme Lamia, tu nous fais souvent des épisodes en deux parties et on apprécie beaucoup ça. Peut-être que tu peux nous faire un petit recap de ce que tu avais dit la fois dernière.
Effectivement Manon, alors la semaine dernière, si vous vous souvenez bien, je vous avais parlé de Mustafa Kemal, l'Atatürk, et des très larges réformes qu'il avait mises en place dans la Turquie post-Empire ottoman. Et j'avais également mentionné à la fin de l'épisode une date, celle de 1979, la révolution islamique en Iran qui avait provoqué des ondes de choc. C'était fait ressentir notamment dans la Turquie avec la montée du parti de l'AKP, donc celui d'Erdogan, qui a d'abord été maire de la Turquie et qui ensuite a été élu président en 2014. Alors AKP, il ne me semble pas l'avoir précisé la dernière fois, mais ça veut dire donc le parti de la justice et du développement. Et donc l'arrivée au pouvoir d'Erdogan provoque notamment des inquiétudes sur le retour ou non du fait religieux dans l'espace public, alors que ça va bientôt faire un siècle qu'on a connu la période kémaliste.
Et donc tu l'as dit, la période kémaliste, elle est assez pérenne puisqu'elle dure tout de même un certain temps. Mais donc quels sont les rapports qu'a Erdogan envers ce kémalisme, et notamment il y a quand même un grand lien avec la laïcité.
Oui, effectivement, Manon, c'est très intéressant cette impression qu'a Erdogan par rapport au kémalisme. Alors, il a tendance à définir cette période kémaliste comme une parenthèse, ce qui est quand même un euphémisme hein, quand on connaît la portée des réformes mises en place par Mustafa Kemal et effectivement sa pérennité, comme tu l'as mentionné. En fait, pour Erdogan, le régime de Mustafa Kemal était un régime post-ottoman et pour lui, c'est un régime qui est dépassé puisque aujourd'hui, on doit revenir à cette gloire ottomane qui a été remise en question, soi-disant, par Mustafa Kemal, étant donné qu'il a entrepris des réformes laïque par opposition à la figure du calife dans l'Empire ottoman. Aujourd'hui, pour Erdogan, la Turquie est une puissance qui dispose de suffisamment de matière pour pouvoir se détacher du kémalisme qui est vu finalement comme un rapprochement très fort avec l'Occident. C'est-à-dire très simplement que la Turquie est capable d'adopter sa propre conduite, sa propre particularité. C'est donc une excuse pour finalement cette baisse de la laïcité. D'ailleurs, ce que Mustafa Kemal a tendance à dire, c'est que les individus ne peuvent pas être laïcs, par contre l'État peut l'être.
Très bien, et donc cet éloignement de la part d'Erdogan envers ce kémalisme, par quelles mesures concrètes il s'articule ?
Alors d'abord, le plus important, c'est un retour très fort du foulard, donc du voile, dans l'espace public. Un exemple très concret aussi, c'est les modifications qui ont eu lieu au sein de l'église Sainte-Sophie, qui est d'abord devenue une première fois la mosquée Hagia Sophia en 1453 lors de la prise de Constantinople par les Ottomans. Elle a été ensuite transformée en musée sous Mustafa Kemal et enfin transformée donc de nouveau en lieu de culte, en mosquée, par Erdogan. Alors cette implantation de lieux de culte musulmans au sein de la Turquie, il n'est pas isolé au cas de l'église Sainte-Sophie, hein, puisqu'on a eu près de 12 000 mosquées qui ont été construites depuis son arrivée au pouvoir. On a également le développement de ce qu'on appelle des écoles imamatiques, donc en fait ce sont des écoles religieuses où 25% des cours sont en fait liés plus ou moins à l'islam sunnite, mais en fait ces cours ont toujours un rapport avec la religion, et selon l'OCDE, donc l'enseignement y est largement inférieur à celui des écoles laïques. On a une très forte implication de la jeunesse également via l'exemple d'une vidéo dont je vais vous parler, qui est une vidéo qui a été diffusée par Erdogan, une vidéo de quasi-propagande hein, à la destination de la jeunesse, qui énumère des figures spirituelles, intellectuelles de l'islam sunnite, qui sont largement liées donc à la tradition musulmane que veut promouvoir Erdogan. On a une apologie qui est faite d'hommes qui seraient censés s'incarner dans la figure d'Erdogan, notamment Mus'ab ibn Umayr, donc le compagnon du prophète, le sultan Mehmed II, Suleyman, qui a régné sur les trois continents. Et donc je cite hein, l'injonction qui a lieu à la fin de la vidéo, qui s'adresse donc à la jeunesse, tu es l'espoir de la Turquie, tu es la Umma, c'est-à-dire la communauté des croyants, tu es Erdogan. C'est donc des figures qui sont clairement censées façonner l'identité de cette jeunesse turque.
Et face à un peuple qui a connu cette laïcité pendant, on l'a dit, plus de 100 ans, on peut peut-être imaginer des contestations au sein de ce peuple.
Évidemment, il y a beaucoup de contestations, hein, puisque les mesures de Kemal, comme je l'ai déjà dit, elles étaient quand même pérennes, elles étaient ancrées au sein de la société, qui étaient attachées à ce sécularisme. Je peux citer un exemple hein, assez parlant, je trouve, qui est que lors de l'arrivée au pouvoir de Erdogan, on a des membres de l'armée kémaliste qui ont refusé de se tenir dans la même pièce qu'une femme qui portait le voile, en l'occurrence la femme de Erdogan. Pourquoi ? Puisque l'armée, c'était un des ressorts principaux du régime kémaliste, qui était un régime autoritaire de fait, mais qui était très attaché à la laïcité.
l'humanité. Alors au-delà de l'armée, on a les associations de mémoire pour Mustapha Kemal qui pensent donc que son héritage est toujours d'actualité et qu'il est toujours au fondement de la République de Turquie. Ils insistent notamment sur le fait que les dispositions prises par Erdogan sont corrélées à une diminution des acquis féministes pour la gente féminine de manière générale. Alors ce sont des revendications et des protestations qui se localisent surtout au niveau de la côte égéenne où on a un reflet du culte de la personnalité ou plutôt du reste du culte de la personnalité de Mustapha Kemal qui est très présent. Je rappelle que sur les 8 jours fériés qui sont commémorés en Turquie, 4 sont donc commémorés à l'honneur du père des Turcs, donc de Mustapha Kemal, qui reste une figure tutélaire en Turquie malgré tout, hein, puisque insulter sa mémoire peut quand même être passible de prison. Alors au niveau de la jeunesse, je parlais tout à l'heure des écoles, on a également des jeunes qui rejettent cette injonction très forte à la pratique de l'islam en se revendiquant comme déistes, voire même athées. Alors je peux vous citer quelques chiffres, hein. Depuis 2008, on a une baisse de 7% des jeunes qui se déclarent religieux. C'est exactement les dates où l'arrivée au pouvoir de Erdogan va se faire ressentir, même si une des conséquences majeures de cette baisse de religiosité, ce sont des discriminations, hein, tout simplement, puisque les personnes qui se déclarent comme non-musulmanes subissent parfois des baisses de salaire, très concrètement. Ensuite, on a une tendance, alors qui n'est pas drastique, mais qui est intéressante si on prend en considération tous les efforts d'Erdogan pour réimplanter la religion musulmane dans l'espace public, c'est que 34% des femmes portaient le voile en 2020, contre 37% en 2010, donc on a donc une légère baisse. Et idem pour la pratique du jeûne, elle est aujourd'hui à 65% en Turquie, contre 77% en 2010.
Merci Lamia, et peut-être pour terminer, quel impact porté plus global ont les prédispositions qu'a pris Erdogan sur la Turquie ?
Oui, alors l'impact majeur, c'est une fracture en fait, qui va venir diviser la société entre une société qui se revendique comme laïque, aux valeurs aujourd'hui qu'on associe plutôt à l'Europe, et puis une autre partie de la société, hein, donc assez conservatrice, c'est d'ailleurs elle qui va venir élire Erdogan, puisqu'elle se sentait délaissée face aux acquis kémalistes, qui revendique en fait une vision de l'identité turque comme prenant ses racines dans la religion musulmane. Et puis pour la porter, je pense que ce qui est intéressant de remarquer, c'est que Erdogan est arrivé au pouvoir entre 2000 et 2010, puisqu'il a d'abord été maire avant d'être président, et c'est en fait, son arrivée au pouvoir coïncide avec la majorité d'une génération qui n'a connu que lui, en fait, qui va bientôt avoir 18 ans. Il sera donc intéressant d'observer les choix électoraux que feront ces jeunes, alors même qu'ils ont connu leur jeunesse sous le pouvoir d'Erdogan.